et les grandes gueules.
À vous de choisir.
On va, vous avez choisi de parler avec nous de Vladimir Poutine, de son discours hier matin au chef de l'État russe qui mobilise partiellement les réservistes, 300 000 personnes appelées sous les drapeaux, et surtout la réponse, c'est ce qu'il dit aux Occidentaux, à l'OTAN. Moi aussi, j'ai des armes de destruction massive. Il brandit la menace nucléaire. Est-ce que ça vous inquiète? 32-16 pour en parler avec les GG. Et on écoute Poutine, Vladimir.
Nous entendons des déclarations de certains représentants de l'OTAN sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Je tiens à rappeler à ceux qui se permettent de telles déclarations que notre pays dispose également d'une large variété d'armes de destruction. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Et ce n'est pas du bluff.
Vladimir Poutine hier matin à la télévision russe.
Oui, il y a une escalade. Il y a à la fois cette menace nucléaire qui est brandie à nouveau. Bon, le principe d'une menace nucléaire, c'est que de toute façon, si jamais il utilisait l'arme nucléaire, il y aurait forcément des représailles. Il risquerait lui aussi de prendre une arme nucléaire sur la tête. Donc c'est, beaucoup de spécialistes disent qu'il faut quand même peut-être un peu minimiser tout cela. En revanche, ce qui est peut-être plus embêtant, c'est à la fois les référendums qui sont organisés dans les régions des séparatistes pro-russes, et puis aussi cette mobilisation supplémentaire, ce qui veut dire que la guerre va durer. Poutine n'y arrive pas, il a besoin d'hommes et de femmes supplémentaires, alors d'ailleurs des hommes qui, pour certains, ont fui le pays ou veulent fuir le pays. Est-ce que ça vous inquiète, justement, cette escalade? On ne voit pas vraiment comment on va s'en sortir aujourd'hui.
32-16 pour en parler, GG Kauter.
Moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Moi, à la différence de vous, je le dis depuis le départ, moi, je pense qu'il est, il aurait aimé gagner du jour au lendemain, bien entendu, mais je pense qu'il est prêt, je pense qu'il s'est préparé à ça, je pense qu'il s'est pris un mur en 2014 et qu'il s'est préparé en termes d'énergie, en termes d'économie, et il a peut-être mal préparé son peuple ou peut-être qu'il y a des dissidents dans son peuple, mais en tout cas, lui et ses états-majors sont prêts à une guerre longue. Et c'est nous
malgré
qui...
Malgré les sanctions.
Malgré les sanctions, parce que le mec, il est indépendant sur... à plein niveau, y compris au niveau de l'énergie, de l'économie. Donc, le gars, en fait, il s'en fout, entre guillemets, et c'est un jusqu'au boutiste. Je ne suis pas spécialiste de guerre, donc je ne parlerai pas à la place des spécialistes, mais en ce qui me concerne, moi, je prends ces menaces très au sérieux.
Cette guerre
parce que c'est un homme qui ne voudra pas perdre. Donc, il ira jusqu'au bout pour laisser une trace dans l'histoire.
Barbara.
Quand un dictateur, qui plus est, qui possède l'arme atomique, est dos au mur... Voilà. Il faut vraiment s'inquiéter. Parce que quand un démocrate, un président élu démocratiquement, un premier ministre, je sais pas quoi, a le dos au mur, a conduit une guerre, a le dos au mur, etc., bon, bah, il a une opinion publique, il a des pouvoirs équilibrés, des contre-pouvoirs à l'intérieur de son pays, donc il y a des moyens, à la limite, à certains moments, de débrancher la personne. On se rappelle quand Trump a été élu, il y en avait, ça y est, on allait avoir la catastrophe, etc. Non, les États-Unis sont une démocratie, il y a des contre-pouvoirs. Trump a fait ce qu'il a voulu faire dans certains domaines et moins dans d'autres. Vladimir Poutine, c'est pas la même chose. D'abord, c'est un homme qui a une histoire avec le FSB, le KGB, qui a une vision. Alors lui, par contre, il a une vision très nationaliste, assez impérialiste, au sens où il regrette la Grande Russie, etc. La Crimée est actée, son annexion. Les régions, tu l'as dit, séparatistes pro-russes, c'est-à-dire que depuis les accords de
Minsk,
il y avait dans ces régions-là une forte proportion de population qui voulait être rattachée à la Russie. Donc cette guerre dans le Donbass, c'est pas non plus une guerre qui tombe de nulle part. Il y a des raisons non seulement historiques liées à une partie russophone très importante de population. Et je crains véritablement que entre un Poutine dos au mur avec l'arme atomique et de l'autre côté un Zelensky complètement galvanisé par le soutien américain et britannique sur le terrain, qui fait que d'un point de vue militaire, ça lui permet de faire quelques belles opérations, mais que les Américains aillent faire croire à Zelensky qu'il va reprendre la Crimée, le Donbass, qu'il va écrabouiller la Russie et qu'on va ensuite balkaniser la Russie, mais ils sont en train de lui faire péter une durite à Zelensky. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut, et c'était d'ailleurs un des aspects du discours d'Emmanuel Macron que je trouvais pour le moins là assez posé, de dire attention, on se calme tous. La Chine d'ailleurs aussi a dit on se calme.
L'Inde,
L'Inde a dit on se calme. Ouais. Et je pense que la position chinoise, française, pas européenne parce que j'entends pas Ursula, elle s'habille qu'en bleu et jaune, mais en tout cas pour les grandes puissances qui sont aussi des puissances nucléaires, on se calme. Parce que Biden, il est bien aimable. L'OTAN, oui, ils sont bien gentils. Oui. Mais quand les Américains, excusez-moi, mettent la pagaille quelque part, c'est pas chez eux. 14-18, on n'est pas venu faire la guerre chez eux. 39-45, on n'est pas venu chez eux. Par contre, l'Europe a feu et à sang. Donc, il y a un moment, l'encouragement que les Américains et les Britanniques font vers les Ukrainiens en leur faisant miroiter des choses qui n'arriveront pas et de pousser quelqu'un de dangereux comme Poutine, ça risque d'être effectivement très menaçant.
Stéphane. Je crois que il faut se méfier effectivement d'un homme ou d'un animal qui est blessé. Et sa menace nucléaire, je pense qu'il faut la prendre au sérieux parce que c'est un animal blessé et c'est un fin connaisseur sur les échecs de la Russie, puisqu'on le constate à chaque fois l'histoire de la Russie, c'est aussi à chaque défaite militaire, il y a eu un changement de gouvernement, ça a basculé et le gouvernement en place a été balayé. Donc ça, Vladimir Poutine en a conscience. Il a conscience d'un deuxième point. C'est, savez-vous quel est, sur Google Russie, le premier, ce qui est arrivé en tête lorsqu'il a fait ses déclarations? Quel était le message en tête? Ce que les Russes recherchaient sur Google en Russie? Ils recherchaient la chose suivante: comment se casser un bras? Pour ne pas, suite à l'appel des réservistes, pour ne pas aller justement sur sa réserve citoyenne. Ensuite, je prends un deuxième point. L'AFP a sorti une dépêche. 300 millions d'euros depuis 2014 ont envahi notamment l'Europe. Les États-Unis ont la liste de ceux qui ont été financés par les Russes. J'observe que l'Italie a demandé la liste officielle des politiques, des contestataires qui ont touché de l'argent russe. Moi, j'invite la France à demander la liste officielle de tous ceux qui sont financés et qui font, pardon, la propagande, je vais être poli, de Vladimir Poutine. Donc, il faut aussi, à un moment, considérer qu'il y a une guerre militaire, il y a aussi une guerre sur le digital, il y a aussi un désengagement, et c'est l'optimisme que j'aimerais préserver, c'est qu'il y a un désengagement du peuple russe. Et quand le peuple russe, moi j'ai grande confiance au peuple russe, mais quand il va se soulever, il va tomber.
T'as l'impression, juste une question, Stéphane, t'as l'impression qu'en France, là, l'ensemble de la classe politique...
Non. L'ensemble
de la classe médiatique est favorable à Vladimir Poutine.
Ce n'est pas
tu
ce que
j'ai dit.
Des
gens chez... Tu as entendu Jean-Luc Mélenchon dire que Vladimir Poutine avait bien fait d'envahir l'Ukraine. Tu as entendu Marine Le Pen dire que Vladimir Poutine avait bien fait d'envahir l'Ukraine. Je te demande, non, est-ce que tu les as entendu dire ça?
Est-ce que tu es comme moi favorable à ce que les États-Unis fournissent, que la France demande la liste de tous ceux qui touchent de l'argent sale de la Russie?
Ah, mais pas
moi,
que la Russie, mon ami,
ici, des États-Unis, ici,
voilà. Des Américains, des Chinois, aussi. Des Qataris, de
tout le monde. Ceux qui foutent les guerres partout. Ceux qui foutent les guerres, excusez-moi, ceux qui foutent les guerres partout à travers l'OTAN, et là, je rejoins Barbara, j'ai dénoncé à plusieurs reprises, c'est les États-Unis qui... L'Europe a feu à sang, l'Irak, il y a plein de pays où ils foutent la guerre et ils se cachent chez eux parce qu'ils sont inaccessibles. Donc moi je voudrais aussi que les États-Unis, moi j'adorerais que soit l'OTAN explose, soit les États-Unis sortent
au contraire.
Soit les États-Unis sortent de l'OTAN. Parce que c'est eux, ça va être difficile. Oui, mais excuse-moi.
Qui l'ont créé. Mais, sincèrement,
in
pour
fine, c'est toujours eux qui tirent les marrons.
C'est ça.
J'entends ce que tu dis, effectivement. Attention à la surenchère, l'escalade. Après, il y a pas, pour l'instant, d'autre solution que malheureusement continuer la guerre, puisque là aujourd'hui, il y a pas de velléité de cesser le feu, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Poutine, parce que il veut arriver à ses fins, et les Ukrainiens, parce qu'ils sont en train de mener une contre-offensive qui progresse. Et Zelensky ne va pas dire tout d'un coup, écoutez les gars, on va s'arrêter alors qu'on est en train de prendre
le territoire. Je suis d'accord avec toi. Parce que
c'est de constater, c'est la guerre,
je vais te dire une chose.
De constater que Zelensky n'est pas qu'un acteur puisque la Russie recule.
Je vais te dire une chose.
Non, non. La Russie, excuse-moi Barbara, je suis obligée de répondre. Tu vois, il faut arrêter d'être hypocrite. La guerre, c'est pas Zelensky qui la met.
Excuse-moi.
Sans les États-Unis, sans le Royaume-Uni, leur stratégie, leur logistique, leurs armées et leurs armes.
Bien sûr.
Je suis désolée. Il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui.
Juste un point.
Lui, c'est juste du show, lui. C'est tout.
Joe Biden. Si Joe Biden, son implication dans l'affaire ukrainienne, lui permet aussi de redorer son blason
son
un petit
fils.
Peu aux États-Unis, et de faire oublier les affaires de son fils, ça n'en parlons pas, mais enfin, aussi de...
D'envoyer un message aux Chinois.
Et d'envisager les élections de midterms un peu moins catastrophiques que ce qui était annoncé. Mais donc, tant que Joe Biden, en particulier Joe Biden, parce que les Anglais, c'est pas pareil, mais tant que Joe Biden soutiendra militairement, politiquement et en termes de communication et de propagande, Zelensky en déclarant des choses, alors que vous avez des gens comme Emmanuel Macron, vous avez Olaf Scholz, vous avez d'autres enfin, représentants aussi, européens qui ont un discours plus nuancé.
Oui, mais on est quand même dans le soutien militaire. Non, parce que... Et Macron dit qu'il faut soutenir encore davantage.
Oui, mais
militaire,
c'est dit, de... le dit qu'il faut garder, le lien avec Moscou, qu'il faut continuer à parler avec eux, etc.
Amener Zelensky. Ce qu'il faut, c'est amener Zelensky et Poutine à la table des négociations et que personne ne perde la face. Que ni Zelensky ni Poutine ne perdent la face.
Et là, on est d'accord.
Donc, il faut deux gagnants. Mais tu n'auras pas deux gagnants si les Américains, à chaque fois qu'ils sont
parce
là, c'est pour venir cracher sur Poutine, excuse-moi.
Alors, attention, on va écouter Nicolas dont l'épouse est russe et il nous appelle au 3216. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Bonjour les GG.
Bonjour, bienvenue. Parce que en fait, vous nous appelez pour faire part de votre inquiétude, Nicolas.
C'est inquiétude parce que je la vis un peu comme vous, mais davantage, ma femme est russe. Oui. Ma belle famille est sur Moscou. Donc là, déjà, premièrement, elle a très peur pour son frère et son cousin parce qu'ils peuvent être appelés vraiment du jour au lendemain. Donc c'est... On retourne dans une grosse phase d'inquiétude. Il y a eu la première phase à février-mars où c'était matin et soir en pleurs. Et là, nouveau, là, c'est reparti parce que vraiment, voilà, grosse crainte. On ne sait pas du tout si le chiffre 300 000, elle n'y croit pas. Pour elle, ça va être davantage. Ceux qui sont préparés, elle n'y croit pas. De toute façon, il n'y a personne qui est prêt. L'armée là-bas, c'est fanfaronnesque. Ils vont envoyer de la chair à canon. Donc, ça peut être 300 comme 400, comme 500. Elle n'y croit pas du tout. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a, travaillé pour l'événementiel politique dans les années 2015, 2016, 2017. Donc, elle connaît un petit peu le groupe Poutine et surtout ce qui est autour de M. Poutine. Les gens qui sont proches de lui. Comme dit un intervenant tout à l'heure chez OGG, attention, un animal blessé, il peut devenir dangereux. Là, c'est l'ego. L'ego est surdimensionné chez M. Poutine et son entourage. Et là, elle a vraiment, vraiment peur. La preuve, c'est que tout dernièrement, on a entendu la Chine et l'Inde qui ont dit « Oula, attendez, il faut mettre les freins là ». Donc, pour que l'Inde et la Chine en disent même « il faut mettre les freins », c'est que ouais, ça fait très, très peur.
Mais c'est aussi la stratégie de la peur de Poutine. C'est-à-dire, ne tombons pas dans le piège aussi. Son intérêt, effectivement, c'est de faire peur. Et ça marche, visiblement, puisque sur le plateau ici, des gens disent on a peur.
Factuellement, il n'a pas 30 ans, Poutine.
Bien sûr, il joue sur ça. Et d'ailleurs, Poutine a toujours dit que les démocraties que nous représentons étaient des lâches. Hein, en fait, l'Occident, pour Poutine, on est des mauviettes. En gros, on est des lâches. Et d'ailleurs, il pariait sur ça pour arriver à ses fins en Ukraine. Donc, ne donnons pas raison à Poutine. Soyons pas lâches, soyons aussi durs et aussi fermes que lui. Parce que sinon, on tombe dans le piège qui nous tend.
Et puis n'oublions pas non plus que parfois, c'est pas seulement un animal blessé qui peut utiliser l'arme atomique. Excusez-moi, mais dans l'histoire, les seuls qui ont utilisé l'arme atomique, c'est les Américains. Sur, en l'occurrence, un animal blessé parce que le Japon était quasiment déjà à deux doigts de la capitulation et que Hiroshima et Nagasaki ont été jetés sur un pays qui était déjà à l'agonie en termes militaires. Donc, on voit quand même que, bien sûr, quand un dictateur a l'arme atomique, ça fait encore plus peur. Mais enfin, il peut y avoir aussi des démocraties qui jouent des jeux extrêmement dangereux dans leur façon d'attiser les risques.
À savoir qu'il y a deux formes d'armes atomiques. Il y a quelqu'un qui était chez Apolline ce matin qui l'a bien expliqué. Il y a l'arme atomique que l'on a tous en tête, qui sort de l'avion, qui éradique tout un pays. Et il y a l'arme atomique beaucoup plus locale, qui peut faire énormément de dégâts. Je pense que aujourd'hui, c'est plus celle-là qui voilà. Merci. C'est plus celle-là qui.
Mais vous savez bien, Nicolas, que Vladimir Poutine a bien conscience quand même que sur un front de 1000 km et sur un pays dans lequel vous avez énormément de russophones, de gens. Je veux dire, quand vous passez votre temps à dire l'Ukraine, c'est la Russie. La Russie est née en Ukraine. C'est-à-dire, dans l'imaginaire collectif russe, l'Ukraine est un pays, c'est même pas un pays frère, c'est quasiment la Russie. Vous allez mettre la bombe atomique vous allez vous mettre la bombe atomique sur vous-même. Donc, à un moment donné, Vladimir Poutine, je veux bien que tout le monde le fasse passer pour un fou. Moi, je pense qu'il est pas fou. Je pense qu'il a sa rationalité à lui. Absolument. Et qu'il va pas aller mettre une bombe tactique dans un pays dont il prétend être le propriétaire.
Oui, ça paraît, Nicolas.
La différence, c'est que M. Poutine, sa préoccupation, c'est lui et son ego. Sa population,
lui, c'est lui et la reconstruction de l'Empire. Cet homme veut laisser son nom dans l'histoire et il veut reconstruire l'Empire russe de toute sa grandeur.
À quel prix? À quel prix?
Bah oui.
Nicolas, votre épouse et sa famille, et, ils sont de Moscou, ils sont de...
Oui. Oui, ils sont de Moscou.
Et ils ont fait partie de l'exode, justement, parce qu'on a observé que les la population billet d'avion, billet de train pour sortir de la Russie était vendue parfois au double ou triple du prix.
C'est interdit
pour les réservistes.
Oui, mais... J'ai mon beau-frère qui était parti en Arménie, parce que sa femme est arménienne. Ils étaient partis en Arménie au début de la guerre. Ils craignaient justement cet appel. Et puis, mois d'août, septembre, donc il a été obligé de revenir parce que pour le travail sur place. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils attendent maintenant un bébé. Donc, ouais, ils ont très, très, très peur, mais c'est général. Là, ce qui s'est passé hier soir, parce que le discours hier matin de Poutine, c'était quand même assez divisé en Russie, notamment sur Moscou, c'était quand même assez divisé.
Mais ça montre bien qu'une bonne partie des Russes, ce n'est pas leur guerre.
Merci, Nicolas, d'avoir apporté votre témoignage. C'est fini. Merci, Nicolas.